Pourquoi parler d'une quête ? Eh bien parce que ce n'est pas si simple que ça de définir ce qu'est l'impact pour une entreprise aujourd'hui. C'est tellement pas si simple qu'il faut mener certaines investigations poussées pour déterminer quels sont les impacts positifs que l'on peut attribuer à telle ou telle entreprise.
Et c'est en investissant dans des entreprises qui mitigent bien leurs impacts négatifs inhérents à leur secteur, tout en tentant de générer un impact positif, que l'on va réussir à répondre aux grands défis de notre monde avec notamment celui qu'il devient urgent d'endiguer, celui du changement climatique. Grâce à nos invités, que nous avons sélectionnés parce qu'ils incarnent cette volonté de changement profond, nous allons tenter de mener l'enquête pour être certains que chaque euro investi génère dorénavant un impact positif.
Je suis Marc Vamser et je vous donnerai le point de vue du banquier investisseur.
Je suis Paul Allard et je vous donnerai le point de vue de l'entrepreneur. Nous avons l'incroyable chance de recevoir aujourd'hui Chantaline Carpentier, qui a un incroyable parcours international en développement durable. Elle est en poste à l'ONU depuis près de 9 ans. Elle est présidente de la Task Force sur l'économie sociale et solidaire. Et elle va nous raconter comment elle fut impliquée dans les négociations avec plus de 193 pays qui ont mené à la création des fameux ODD, les Objectifs du développement durable. Bonjour et bienvenue, Chantaline.
Bonjour, comment vas-tu, Paul?
D'où viens-tu, Chantaline? Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a fait en sorte ton ADN qui t'a mené là où tu es aujourd'hui?
Écoute, c'est très simple en fait, parce que mon père déménageait de plus en plus loin dans la forêt et en région, fuyant le monde et la civilisation. Et donc, j'ai dû d'une part m'adapter et apprendre à connaître de nouvelles personnes et à faire de nouveaux liens, mais aussi apprécier énormément la nature. J'ai été élevée à aller à la chasse, à la pêche, et on dépendait beaucoup de la nature. Donc, pour moi, ça, c'était intrinsèque. Au secondaire, on nous avait demandé des tests au Québec, je ne sais pas si on le fait encore, des tests d'aptitude. Et l'agriculture et l'environnement étaient au top des choses qui m'allumaient. Et donc, pour moi, c'était évident d'aller en sciences pures et en sciences pures et appliquées. Et en agriculture, il y avait 2 universités, McGill et Laval. Et comme j'arrivais de la Gaspésie et que je m'en venais à Montréal, j'étais à Montréal, je n'avais pas envie de retourner à Québec. Donc, je suis allée à McGill, donc j'ai appris l'anglais. Et voilà, donc pour moi, dès le départ, c'est l'agriculture, l'environnement, le lien entre ça et avec les gens.
Mais à l'époque, si je ne m'abuse, le modèle était quand même un modèle assez traditionnaliste, industrialisé, qui requérait beaucoup de d'intrants chimiques, et puis on était à l'époque des grandes coupes à blanc. Comment est-ce que tu déjà voyais ça, toi qui as donc, si j'entends bien, au Québec, tu as fait plusieurs régions forestières. Donc, comment est-ce que tu avais une sensibilité à ça ou pas encore?
Pas encore, parce que bon, on était pauvres et on vivait d'une ferme de subsistance. Et donc, c'était plus… Mais c'est quand je suis arrivée à l'université, tu sais, le pouvoir de bon professeur. Mon prof à McGill était de ressources naturelles et environnement. L'économie des ressources naturelles et de l'environnement. Il arrivait tout juste de Hawaï, il venait de finir son PhD. Il était génial, très, très allumé. Et nous a éclairé sur les modèles alternatifs. Et c'est, à l'époque, je dois dire, Paul, les gens ne se rendent pas compte, mais McGill était une des premières universités à enseigner l'agriculture écologique respectueuse de son environnement. Et on ne l'appelait pas développement durable, mais c'est ce qu'on enseignait à McGill à l'époque.
Donc, ah oui, ça. Et puis on parle de quelles années sans donner…
Paul!
Mais c'est intéressant.
Oui. Donc, c'est le bac, on parle de 88 à 90. 87 à 90.
Ah oui, c'est tôt.
Oui, c'est, on parle de…
Ah oui, c'est tout. À la naissance des concepts de développement durable, rappelons-nous que le rapport Meadows était en 1972, hein, ça fait pas si longtemps. Et après ça, tu as migré, donc, une fois que tu as gradué de McGill, où tu as pris un métier, qu'est-ce que tu as fait après ça?
J'ai fait… le même professeur m'a incité à appliquer pour un summer fellowship à Virginia Tech. Et donc, j'ai fait un summer fellowship durant mon bac et je suis décidée que, comme je n'avais pas d'emploi, en fait, j'ai fait ma maîtrise parce que je suis revenue d'Europe, j'étais partie avec mon baluchon, j'ai passé l'été en Europe et je n'avais pas un sou quand je suis revenue, je n'avais pas de job non plus, j'avais appliqué sur aucune université. Et mon prof venait juste d'avoir un mandat de Statistique Canada pour désagréger la matrice du système national de statistiques du Canada, la colonne agricole pour qu'on ait une comment on dit, avant c'était vraiment livestock,
une vue plus granulaire.
Oui, plus granulaire, et qu'on développe les matrices environnementales pour qu'on puisse voir si, parce qu'on comme ça on pouvait choquer la matrice input-output, et avec certaines politiques, est-ce qu'on augmentait le risque de pesticides, les utilisations des pesticides, des fertilisants qui peuvent arriver dans nos eaux, et tout ça, et donc j'ai dit oui. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ma maîtrise. Et après, comme j'avais fait un summer fellowship, j'étais allée faire un doctorat à Virginia Tech en économie agricole et environnementale. Et quand j'ai terminé, j'avais le choix entre tenure track, donc aller enseigner à l'université, ou l'aventure. Et je me suis dit, bon, à l'université, je peux toujours retourner enseigner. Fait que je suis partie dans l'Amazonie pour brésilienne pour 2 ans de postdoc avec International Food Policy Research Institute. Fondo del Mundo. Et en fait, ce que je travaillais, le Brésil, en fait, est un des pays où ils ont investi le plus en R&D, en recherche et développement, en agriculture très tôt. Et donc, ils ont des centres de recherche dans toute l'Amazonie sur le café, sur le açaï, maintenant, qui est très populaire. On travaillait là-dessus quand j'étais au Brésil, le coupe-poissou. Donc, comment est-ce qu'on peut développer des chaînes de valeur à l'exportation pour le développement régional de ces régions très éloignées. Mais tu demandais la culture. Quand je suis arrivée, on avait encore cette idée que personne ne doit dire au Brésil ou à un pays souverain quoi faire avec ses ressources. Et c'était à l'époque où on disait au Brésil, si vous n'êtes pas capable de vous occuper de la forêt amazonienne, on va s'en occuper pour vous. Et on voyait les gens comme moi qui arrivaient de l'extérieur beaucoup comme des espions qui venaient pour essayer de les empêcher d'exploiter leurs ressources pour se développer. Et donc, c'était de développer cette confiance avec eux. Et quand je suis arrivée, il n'y avait pas un économiste dans l'Amazonie. Et donc, un de mes jobs, c'était de trouver des bons chercheurs et de les envoyer au sud du pays pour faire le cours en économie pour qu'on maximise les profits et non pas la production. Donc, c'était un gros choc.
Ah oui. Et puis, qu'est-ce que t'as accompli là-bas et puis ça t'a amené où ensuite?
On a fait deux choses. Un, on a fait un household survey, une étude des populations à Acre et à Rondônia pour une collecte de données. Pour moi, ce que je faisais, c'est un modèle bioéconomique de prise de décision des petits fermiers pour voir comment est-ce qu'on pouvait augmenter leurs revenus en diminuant le taux de déforestation. Et donc, et augmentant le développement régional. Donc, il fallait qu'on ait des données sur les dépenses des ménages, sur les dépenses pour la production, comment ça lui coûtait, qu'est-ce qu'ils faisaient, les pratiques qu'ils utilisaient. Donc, on a fait une étude là-dessus. Puis moi, j'ai fait le modèle bioéconomique pour aider le gouvernement brésilien à éclairer ses politiques. En fait, courant à travers ma carrière, c'est toujours la recherche qui informe les politiques publiques.
D'accord. Puis ces politiques publiques dans une approche de préservation des ressources naturelles, dont dans ce cas-ci, la forêt amazonienne.
Et pas la conservation, c'est important. C'est l'utilisation durable des ressources.
D'accord.
Pour un développement durable et non pas, parce que la conservation, c'est complètement différent. Les gens ne font pas la distinction entre les deux, mais nous, on parle comme bio-commerce. Comment est-ce qu'on, l'extraction durable des ressources comme le pan de rosa, la fleur de rose, et tout en protégeant la ressource pour qu'on ait un revenu à perpétuité.
Excellent. Donc, oui, donc faire une différence entre ce qui est conservé, c'est-à-dire dans l'État, et en faire un développement, une exploitation durable dans le respect d'un renouvellement constant.
Exact.
C'est à peu près ça.
Parce que sinon, ce qu'on trouve, Paul, c'est que les communautés locales doivent y avoir un avantage. Sinon, c'est impossible à enforcer, à appliquer les lois. Quand tu dis que tu vas mettre un endroit complètement hors portée de la population, si la population locale n'est pas capable de nourrir ses enfants, ils vont rentrer dans cette zone. Et donc, c'est mieux de leur donner une capacité de subvenir à leurs besoins en leur en montrant comment extraire ces ressources d'une façon durable.
Et peut-être, ce qui serait intéressant, est-ce qu'il y a des exemples concrets qui sont sortis de ton travail sur, au Brésil, sur, je ne sais pas, une exploitation de café, une exploitation des autres fruits dont tu parlais?
Oui, le coupoissou. Le coupoissou, c'est un fruit que il est très, très périssable. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'est développer une capacité de le geler rapidement et de pouvoir l'exporter gelé. Donc, le transformer, le geler immédiatement. Et donc, c'est cette capacité qui a été développée. Mais d'abord, on avait fait des études d'avantages comparatifs, à savoir où le Brésil aurait un avantage comparatif dans leur exportation verte. Et donc, on avait identifié le açaï. On connaît tous le açaï maintenant. C'était naissant quand j'étais là-bas. C'est des choses qu'on a étudiées à voir comment on peut l'exporter. Donc, le coupoissou, l'açaï, aussi le café d'ombre. Le Shade Grown Coffee, parce qu'eux, ils avaient beaucoup des plantations qui étaient diverses. Et donc, oui, c'est ça. Ce sont des produits, là. Et bien entendu, après, il y a eu toutes les grosses exportations sur le soya, mais ça, c'est plus... encore une fois, c'est d'atteindre cet équilibre entre le développement et la durabilité. Et donc, il y a beaucoup du soya et du bœuf qui a amené beaucoup de déforestation. Et à quel point... L'idée, c'est pas de pas déforester, mais c'est de déforester à quel rythme et s'assurer qu'il y a une redistribution des revenus. Parce que quand j'étais là, moi, c'était amener les gens sans terre à la terre sans gens. Sauf que, si vous vous souvenez bien des rubber tappers qui étaient déjà dans l'Amazonie et il y a eu beaucoup de conflits parce que les rancheros qui sont arrivés ont poussé les rubber tappers, ceux qui extraient, c'est comme nous l'érable, le sirop d'érable, mais c'est le rubber que tu extrais des arbres. Et donc, ils avaient des immenses territoires où ils allaient taper le rubber. C'était une bonne idée, mais il aurait fallu peut-être consulter ces populations locales qui étaient déjà là, qui n'avaient pas de droit juridique au territoire et qui se sont fait pousser. Donc, on se souvient tous de Chico Mendes qui a été assassiné dans ces espèces de guerres, un peu de disputes de territoire.
Enfin, donc, ce que tu dis, c'est que les exploitants qui n'étaient pas juridiquement attachés au territoire de caoutchouc, qui en sortaient la sève, ils se sont fait comme poussés par des exploitants d'autres cultures, mais sans aspect d'acceptabilité sociale ou de discussion avec ces paysans sur place.
Oui, c'est on parle d'une différente époque aussi, hein. Où est-ce que même nous au Québec, on a essayé de faire la baie James maintenant, on pourrait pas juste envahir les territoires.
La baie James, qui est l'immense barrage hydroélectrique dans le nord du Québec. Effectivement, aujourd'hui, tout développement hydroélectrique requiert une conversation et un échange avec les nations qui habitent le territoire, quoi.
Et un partage des bénéfices aussi
qui
se fait automatiquement, alors qu'à l'époque, c'était pas le cas. Donc, voilà.
Donc si j'entends ton focus, c'est vraiment cet équilibre entre équilibre économique et équilibre de durabilité et dans une perspective, justement, de meilleur partage des ressources, mais aussi dans une perspective de maintien de la ressource. Donc, tu es resté combien de temps au Brésil et puis qu'est-ce que tu as fait après? 2 ans. Ah oui, 2 ans. Ah oui. Et après, ça t'a amené où, ça?
Après, je suis rentrée aux États-Unis où j'ai travaillé pour un think tank à Washington, D.C. sur l'économie, l'agriculture écologique. Et donc, donc les politiques pour avoir une agriculture durable aux États-Unis. Et donc, on a travaillé d'ailleurs supporté sur le hill, sur la colline, le logo organique biologique pour qui n'existait pas à l'époque. Et donc, c'est nous qui avons fait les travaux pour supporter ça. Et à l'époque, ce qui était vraiment intéressant, et là, c'est là où les politiques, moi, je trouve ça super intéressant, c'est qu'à l'époque, c'était le début du développement des OGM. Et il y avait beaucoup, beaucoup de pression par l'industrie pour s'assurer que les OGM fassent partie du biologique, parce qu'il n'y avait pas de différence selon l'industrie entre un et l'autre dans le produit. Et donc, on a vraiment travaillé avec toutes les parties prenantes et les groupes communautaires, les groupes d'agriculture et d'environnement qui ont écrit le plus grand nombre de commentaires à l'USDA, le département de l'agriculture des États-Unis, pour assurer que les OGM ne faisaient pas partie du label biologique, ce qui fait en sorte maintenant qu'aux États-Unis, comme il n'y a pas de labeling, le seul moyen de savoir si tu n'as pas d'OGM dans ta nourriture, c'est d'acheter le bio avec le logo. Donc, c'est encore une fois, c'est toujours des trucs intéressants.
Ah oui, c'est une vraie histoire. Donc, c'est quoi la certification biologique sur laquelle tu as travaillé?
Le organic label. Organic label.
OK, organic label ouais. Aux États-Unis. Ah oui, ouais. D'accord. Ah oui, c'est un gros fait d'armes, ça. Et ça a duré combien de temps, ces travaux-là à Washington?
2 ans. J'étais là 2 ans. On a travaillé aussi sur les grandes entreprises, les CAFO, Confined Animal Feeding Operation. Donc, on a travaillé. Ça, c'était les deux gros. Les OGM, le bio, puis les grandes entreprises qui sont plus polluantes, en fait, que tu parlais tout à l'heure, les industrialisées.
Oui, c'est particulier parce qu'encore là, les États-Unis, qui sont un pays où il y a du meilleur et du pire, encore là, étaient assez innovants avec un label bio quand même avant tous, quoi. Beaucoup de labels bio qui sont apparus par la suite. Ouais. C'est particulier. Alors ça, c'est une lecture qui est assez intéressante de voir que les États-Unis sont à l'avant-garde, mais en même temps, on entend qu'ils sont en même temps très, très réfractaires. Il y a deux grands courants aux États-Unis. Et ça t'a amené où après Washington?
Après, je suis rentrée à Montréal parce que… Oui, enfin! Et ça, c'était en 2000. Je ne suis pas revenue à Montréal avant 2000. Donc, je suis partie pour mon doctorat en 1994. 92, et je suis revenue en 2000. Donc, là, j'ai travaillé pour l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Donc, ça a été négocié sous Bush père, et quand Clinton a gagné les élections, donc Bill Clinton a gagné les élections, il a gagné avec le support des Greens et du Labour, donc des travailleurs et des syndicats et des environnementalistes. Mais à ce moment-là, l'accord avait déjà été négocié, puis c'est des bibles à peu près grosses comme ça, des accords de libre-échange, surtout celui-là, parce que ça a été le modèle pour tous les autres accords entre des pays développés et en développement. Et donc, il a dû faire comme il avait promis à la population, avoir une protection environnementale. Et donc, ils ont créé 2 accords parallèles à l'ALENA, un sur la coopération environnementale et un sur la coopération du travail. Et donc, moi, j'étais la directrice du commerce environnement-économie à l'accord de libre-échange parallèle en coopération environnementale à partir de 2000 à 2007.
De 2000 à 2007, donc ouais. Tu étais celle qui mettait en application dans le cadre de l'ALENA. En fait, c'est un accord qui est plus détaillé, mais qui découlait de l'accord principal.
C'est ça. Ce qui se passait, c'est, je ne sais pas si tu te souviens, Paul, mais il y avait Ross Perot à ce moment-là aux États-Unis qui faisait le big sucking sound. All the jobs going to go down. Les emplois vont descendre au Mexique parce qu'ils ne vont pas appliquer. Les lois environnementales sont moins élevées que les nôtres. Ils ne vont pas appliquer leurs lois. Donc, on va perdre les emplois ici aux États-Unis qui vont s'en aller vers le Mexique. Et donc, c'était cette espèce de race to the bottom. Donc, la course vers le bas environnementale et que nous, on n'allait pas appliquer nos lois environnementales pour garder la compétitivité de nos industries envers le Mexique.
Et donc c'était lobby de dire l'excuse de ne pas appliquer des lois environnementales, c'est que si on l'applique nous, on sera plus compétitif.
Exactement. Et notre travail à nous, à l'accord de coopération environnementale, c'était de dire, on va développer un framework, un cadre pour mesurer, évaluer les impacts environnementaux du libre-échange. Dans ce cas-ci, du libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Et après ça, ce qu'on a fait, c'est, et ça c'était sous moi, on a complété le cadre et on a fait des appels de symposiums sur le commerce et l'environnement nord-américain, où est-ce qu'on appelait la population, les ONG, les gouvernements, tout le monde qui voulait contribuer à documenter les impacts environnementaux de l'ALENA en Amérique du Nord.
Et ça, ça a été fait durant 6-7 ans, c'est-à-dire qu'on a commencé donc à se baser, se doter d'une base de données sur les impacts environnementaux dans tous les secteurs. Est-ce que ces bases de données-là sont aujourd'hui utiles ou incluses dans des standards? Parce que si on parle de mesures d'impact, il y a beaucoup de standards et de bases de données qui mesurent la matérialité des impacts négatifs par secteur à mesurer, etc. Est-ce que tu peux dire que ces bases de données-là ont été utiles, sont encore utiles aujourd'hui?
En fait, c'est très difficile parce que ce n'est pas vraiment des bases de données. Encore une fois, on est encore très pauvre dans la collecte de données. Puis, il y a deux problèmes. Un, c'est d'établir qu'est-ce qui serait passé sans l'ALENA. Parce qu'on peut juste dire que nos économies étaient déjà très intégrées avant l'ALENA.
Et donc, l'ALENA, pour revenir, c'est l'accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Un accord de libre-échange.
C'est ça. Donc, cet accord-là, on était déjà sur une pente où est-ce que les échanges commerciaux augmentaient entre les trois pays. Okay? L'ALENA, ce qu'elle a fait, c'est de faciliter, donc d'augmenter la vitesse à laquelle nos économies se complétaient et s'intégraient. Donc, l'idée, c'est de dire quel aurait été le développement économique et l'intégration de nos chaînes d'approvisionnement sans l'ALENA, pour qu'on puisse dire que l'impact environnemental de l'ALENA, c'est cette différence entre avec ou sans l'accord. Et bon, ça, c'est très problématique, comme tu peux imaginer. Et ensuite, c'est d'avoir les bonnes données pour mesurer. Alors, on avait des trucs sur les déchets toxiques, par exemple, parce qu'il y avait cette crainte d'une course vers le bas, vers le Mexique. Et en fait, pour les déchets toxiques, c'est le Canada qui était la poubelle de l'Amérique du Nord pour les déchets toxiques à cause de politiques qui n'étaient pas en place. Alors, c'est là où c'est pas nécessairement les données, c'est de voir, de garder à niveau les politiques entre les trois pays pour s'assurer que tu ne deviens pas le dépotoir dans ton accord. Et ça, c'était super intéressant. Et en plus, on a fait les autos, l'impact environnemental des autos, des maquiladoras au Mexique, ça, c'est des zones spéciales économiques sans taxes. Et donc, oui. Puis après, un coup qu'on a documenté ça, l'idée, c'est... Et je ne sais pas s'ils ont maintenu... je pense qu'un mané, tu le documentes, puis c'est plus aussi... Les gens ne demandent plus c'est quoi l'impact du libre-échange sur l'environnement. C'est comme comment est-ce qu'on mitige ces impacts-là une fois qu'on le sait, comment est-ce qu'on fait une évaluation de ces impacts-là live, au jour le jour, pour les mitiger au le plus tôt possible et les politiques de mise en place. Et ensuite, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de dire OK, c'est intéressant ça, mais comment est-ce qu'on utilise le commerce pour greener le trade, pour le rendre plus durable en Amérique du Nord. Et c'est là où ce que j'ai ramené mes expériences sur le Shade Grown Coffee, le café d'ombre, sur les homards biologiques au Mexique, sur le bison qui partagent un écosystème entre nos trois pays, les baleines qui partagent les papillons monarques. Donc, encore une fois, une extraction, utiliser les marchés pour verdir le commerce entre les trois pays.
Ça me fait penser à une réflexion. Alors, on transpose ce qui s'est passé il y a quelques années avec les discussions d'aujourd'hui, mais on a eu sur la dernière COP des discussions sur des fonds pertes et dommages où, en effet, on ne prenait pas que l'impact environnemental aujourd'hui, mais tout l'impact environnemental passé entre des pays qui sont déjà développés et des pays qui sont en voie de développement. Est-ce que déjà à l'époque, il y avait des discussions sur ce sujet-là, quand tu disais justement que les États-Unis avaient cette crainte de dire en fait, nous, on va être plus vert que le Mexique et donc perdre en compétitivité?
En fait, non, il n'y avait pas. En fait, ce que les Américains ont fait, et ce qu'ils devraient être dans tout accord de libre-échange, en fait, c'est qu'on sait qu'avec un accord de libre-échange, il y aura des gagnants et des perdants. Et on est pas mal capable d'estimer dans quel secteur les perdants vont être. Donc, eux, ce qu'ils avaient fait, c'est mis en place un système où est-ce que si tu pouvais dire que tu as perdu ton emploi à cause de l'ALENA, tu avais droit à tout un programme de support pour te réoutiller dans un autre secteur. Et ça, c'est plus le côté travail. Et donc, j'essaie de penser dans le côté environnement pour loss and damage, perte et... Non, il n'y avait pas ça. C'est quelque chose qui est très récent à cause des responsabilités différenciées, mais communes, qui sont reliées au climat, qui a été vraiment quelque chose qui est le pilier entre les pays en développement et les pays développés, là, de responsabilités communes différenciées, je pense. Mm-hmm. Mais ça aurait été intéressant, par contre.
De ton point... Oui, non, tout à fait. Mais de ton point de vue, et je ne sais pas si tu as des données, mais est-ce que l'ALENA a permis de faire accélérer la prise de conscience des aspects de durabilité qui doivent être incorporés dans tout échange commercial? Est-ce que tu as senti que ça a été un outil valable pour accélérer la prise de conscience dans ces trois pays-là, dans ces territoires? Avec recul aujourd'hui, est-ce que tu peux dire oui, c'est concluant ou non, on a fait du surplace?
Deux choses. Un, c'est si tu regardes les accords de régionaux maintenant ou bilatéraux de libre-échange, la plupart, en tout cas ceux avec les Américains, sont modelés sur l'ALENA. Et je crois, maintenant, il va y avoir un chapitre sur l'environnement, ou en tout cas quelque chose dans le préambule sur le développement durable. Et ça, ça vient pas mal de ce qu'on a appris de l'ALENA, en fait. Et de plus en plus, tous ces accords incluent beaucoup plus sur aussi le genre, l'impact. On sait que les accords de libre-échange, comme toute politique, ne sont pas genre neutres sur le genre. Donc, ils impactent les femmes différemment. Donc, il va y avoir un chapitre sur le genre, sur l'environnement, sur le travail, et qui n'existait pas avant. Et ça, c'est toutes des choses qu'on a appris. Même à travers l'ALENA, je ne sais pas à quel point ça c'est technique, là, mais Investment State Dispute Resolution. Ça, c'est là où les multinationales peuvent poursuivre un gouvernement pour avoir changé une loi. Et donc, ça a été la première fois que ça a été fait, c'est avec l'ALENA. Pendant que j'étais encore à l'ALENA, les gouvernements avaient réduit la portée de cet accord-là parce qu'on se rendait bien que ça n'avait pas d'allure. Et là, maintenant, la dernière fois qu'on a revu l'ALENA, on a encore diminué la portée. Et on veut, là, il faut vraiment s'y attarder parce que pour la transition énergétique qu'on a besoin pour les changements climatiques, le problème, c'est que beaucoup des compagnies qui font l'énergie renouvelable, qui avancent l'énergie renouvelable, vont avoir des subventions. Et où ils vont mettre des politiques en place pour, pour désavantager le gaz ou le pétrole. Ben, ces compagnies-là internationales peuvent poursuivre le gouvernement et c'est ce qu'on voit présentement, en fait. Et ça, c'est vraiment problématique. Il faut vraiment qu'on revoie ces politiques-là parce que ça met un frein.
Oui, ça enlève l'autonomie des États à décider et d'avancer dans la bonne direction face à l'entreprise privée. Donc, oui. C'est effectivement
nos entreprises canadiennes ne sont pas, ou mexicaines ou américaines, ne sont pas susceptibles de ça. Si tu changes la loi, mais c'est juste les multinationales, c'est une compagnie étrangère parce que l'idée, c'était de protéger, d'accélérer les investissements extérieurs en protégeant les investisseurs de nouvelles réglementations. Mais ça a été amené à un niveau qui est tellement que, oui. Je ne sais pas si tu te souviens, on a un exemple très, très clair au Québec, au Canada plutôt, où est-ce que les compagnies de tabac ont poursuivi le gouvernement canadien quand ils voulaient mettre des trucs avec des dessins que tu allais mourir sur les paquets de cigarettes.
Oui, non, c'est des aberrations qu'il faut régler. Et ça, donc, l'ALENA, donc, c'est mitigé par rapport à l'avancement de la prise de conscience des... On reviendra au fameux ODD, là, où est-ce que tu fais aujourd'hui, mais c'est mitigé face à l'avancement systémique d'inclure les ODD dans les préoccupations du système et de l'économie, quoi. c'est pas tout à fait
on n'est pas là. On n'est pas là. Honnêtement, non. C'est mm-hmm. intéressant. J'avais cette mm-hmm. discussion juste la semaine passée avec des collègues. Le secrétaire général de l'ONU a appelé à une réforme de la structure financière internationale. On a appelé à une réforme de la mm-hmm. dette. Mais là où ce qui n'y a pas vraiment de clair mandat, et c'est clair qu'il faut le faire, c'est aligner les politiques de commerce international avec les ODD. Et ça, ce n'est pas fait encore.
Bon, ben, et tombons sur ton travail d'aujourd'hui, parce qu'après Washington, donc, qu'est-ce que tu as fait? Puis parlons maintenant du sujet qui t'occupe. Comment est-ce que tu as abouti là où tu es aujourd'hui à New York?
Ben, en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai appliqué en ligne parce que j'ai joint l'ONU parce que je trouvais que plus que tu travailles sur le commerce, plus que tu te rends compte que, et c'est en a parlé tantôt, le S, le E puis le G doivent être interconnectés. Et de juste travailler sur le E, ça ne marche pas. Si tu veux avoir un impact, tu dois travailler sur le E, le S et le G en même temps. Et nous, on n'avait pas le droit de travailler sur le S. Il fallait juste qu'on travaille sur le E. Et donc, je me suis dit, si je joins l'ONU, je vais être capable de joindre le E et le S et le G. Je ne savais pas à l'époque qu'on allait négocier les ODD, les objectifs de développement durable, mais j'ai joint parce que ils étaient en train, c'était la commission sur le développement durable, et c'était des thématiques sur 2 ans. Et la thématique était l'agriculture durable. Donc, c'était carrément dans mon domaine. Et donc, j'ai joint. Ensuite, on a négocié un autre cycle de 2 ans sur la consommation production durable. Et ensuite, on a eu Rio plus 20. Et là, on a eu un mandat de négocier les ODD. Et c'est là où est-ce que mon patron m'a demandé si je pouvais coordonner toutes les parties prenantes qui non étatales. Étatique, non étatique. Donc, les ONG, le secteur privé, les autorités locales, les groupes de femmes, de jeunes, dans la négociation la préparation pour Rio plus 20 et ensuite la négociation des ODD.
Donc, tu étais, et ça c'est fascinant, et puis c'est ce qui est intéressant, ça fait plaisir, Chantaline, venue de la Gaspésie du Québec, a été une des personnes importantes à la négociation de notre langage commun aujourd'hui en impact, qui sont les 17 ODD et les 164 sous-objectifs. Donc, c'est quand même fascinant. Comment est-ce que tu perçois aujourd'hui, puis on va aller à où est-ce qu'on est aujourd'hui, ça a commencé donc par des organisations de l'État civil, sans les États. Les États ont ensuite adhéré et aujourd'hui, on voit que les ODD sont le langage commun pour l'économie en général, pour établir un plan d'affaires de durabilité. Et même Marc, aujourd'hui, on parle des ODD lorsqu'on fait des investissements, lorsqu'on fait des prêts. Alors, c'est quoi le pont? Comment est-ce que tu perçois? C'est quand même une super réussite, même si les opposants vont dire « Ouais, c'est pas parfait, ça a été fait pour les ONG, la société civile. » Moi, je pense que c'est une super avancée, mais comment est-ce que toi, qui étais à l'origine, est-ce que tu t'imaginais une telle réussite de ce framework, en fait?
En fait, c'est vraiment super intéressant parce que quand tu as été dans le corridor de ces négociations-là, parce que dès le départ, premièrement, les pays membres, on doit mettre les choses au clair, Paul. 193 pays sont d'accord et se sont mis d'accord sur ces 17 objectifs de développement durable. Et c'est vraiment avec les red lines de chacun des pays, de se dire, moi, je ne peux pas signer si je n'ai pas tel truc. Et c'est pour ça que c'est un petit peu, il y a 17 objectifs, il y a plein de gens qui disaient, c'est trop, ça ne marchera jamais. Quand on a terminé la négociation, Greenpeace a dit carrément en public que c'était une autre perte de temps d'une grosse réunion des Nations Unies. Pourtant, c'est ce que les droits humains, je pense, c'est la chose la plus importante que l'ONU a fait. C'est l'accord des ODD. Ça l'a pris, et la différence, et pourquoi c'est important? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillaient sur les OMD, les objectifs du millénaire. Et c'est quoi la grande différence? Ce sont deux. Un, les objectifs du millénaire ont été développés par des experts dans un week-end et ont été imposés aux pays en développement. C'est surtout des objectifs sociaux. Voici les objectifs. Si vous poursuivez ces objectifs, nous, les pays riches, on va vous aider. Les objectifs du développement durable, on avait un working group qui devait être créé de 32 pays. À la fin, il y avait 90 pays parce que tous les pays voulaient être à la table pour négocier les ODD. Et donc, il y a un ownership, les gens voulaient faire partie. Et on a eu la plus grande consultation de toute la planète qu'on n'a jamais fait à l'ONU, parce que le digital était présent. Maintenant, on pouvait utiliser les consultations en ligne et tout après 2012. Et on a eu les groupes d'ONG, le secteur privé aussi aimait le fait que c'était des objectifs. Vous aimez les KPIs, vous aimez ça quand c'est concret. Et donc, on n'a jamais eu autant de secteurs privés représentés dans une grande conférence de l'ONU avant 2012. Maintenant, avec les COP, oui, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Donc, il y a le comment on dit ownership en français?
L'engagement.
C'est l'appropriation, l'engagement, l'appropriation, se l'approprier. La manière que ça a été fait, on l'a fait sur 18 mois, négociation sur 18 mois. Où est-ce qu'on a fait des consultations régionales, on a mis des objectifs de l'avant, ça a été négocié, ça a été bougé, ça a été... Et c'est pour ça que maintenant, c'est... dans nos centres de recherche nationaux et internationaux, les ODD, tu es obligé de dire comment que ça avance les ODD, les universités, les curriculums, le secteur privé. Et donc, parce que les parties prenantes étaient à la table et ils se les sont appropriés.
Et alors, la question qui vient, c'est les ODD, alors si on les regarde, les 17 ODD, c'est compliqué de ne pas être d'accord avec se dire qu'on va aller faire ces ODD, parce qu'en effet, qu'il n'y ait plus de faim dans le monde, ça paraît être un objectif qui me paraît assez cohérent, et il y a peu de gens qui vont dire « je suis contre ». Par contre, se dire qu'il faut mettre tant de milliards de dollars sur tel objectif, là, ça devient plus compliqué. Comment on arrive à un consensus là-dessus? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question... qui est un petit peu plus délicate, c'est comment on s'assure qu'il y a bien toute cette somme qui est réellement investie dans les ODD, puisqu'on voit que malheureusement, on prend un petit peu de retard par rapport à ce qui avait été prévu au départ.
Très bonne question. Premièrement, non seulement on prend un peu de recul, mais en fait, on est plus loin qu'on était en 2015 on s'est mis d'accord sur les ODD après la pandémie et la guerre en Ukraine maintenant.
Tu veux dire qu'on a reculé par rapport aux ODD?
Oui. Ouais. Oui. Parce que maintenant, la pauvreté augmente, les gens qui ont faim augmentent, les femmes, l'égalité entre les femmes a reculé. Et donc, et l'environnement ne va pas mieux. Donc, on continue de ne pas faire bien. On n'était déjà pas sur une trajectoire pour atteindre les ODD avant la pandémie, la guerre en Ukraine. Et maintenant, c'est encore pire. Et en plus, on a des incertitudes sur le marché. Donc, il y avait, Marc, deux écoles de pensée après les ODD. Il y avait ceux qui disaient, écoute, il faut qu'on estime combien ça va coûter pour chacun des ODD. Puis après ça, qu'on aille voir comment on va chercher cet argent-là. Et... tout de suite, ça n'a pas été long, on réalise que c'est impossible de le faire sans le secteur privé, parce qu'il n'y a pas un gouvernement qui a ces trillions de dollars ou 1 000 milliards de dollars pour les atteindre. Et il y avait une autre école de pensée qui disait, écoute, si on fait ça, ça va être des montants tellement faramineux que les gens vont dire, on abandonne dès le départ, on n'embarque même pas dans la voie parce qu'on sait qu'on n'y arrivera pas. Et je dois dire que nous, à la CNUSED, on a été une des premières organisations à estimer le coût des ODD dans les pays en développement parce que c'est important de savoir comment est-ce que la communauté internationale va aider les pays en développement à les atteindre. Et depuis, nous, on avait estimé qu'il y avait un gap à manquer de 2,5 000 milliards de dollars en 2015. Et maintenant, on est rendu plus comme à 4,5 000 milliards de dollars pour atteindre les ODD dans les pays en développement à cause du recul qu'on a pris. Et ce qui se passe, c'est qu'en plus, les pays en développement maintenant, surtout les pays moins avancés, les plus pauvres, il y en a qui payent jusqu'à 50 % de leur budget nationaux pour service de la dette seulement. À cause des taux d'intérêt qui ont augmenté avec les banques centrales pour contenir l'inflation. Et donc, d'une part, donc ils n'ont pas la fiscalité, ils n'ont pas la capacité financière de faire les investissements. Deuxièmement, avec la guerre en Ukraine, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu une flambée du prix des denrées alimentaires et de l'énergie. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de pays les plus pauvres sur la planète qui sont complètement ou en tout cas en partie dépendants de l'importation des denrées alimentaires et de l'énergie. Et donc, eux, pour maintenir leur devise, quand les taux d'intérêt augmentent, ils sont obligés de lâcher leurs réserves. Les imports coûtent plus cher et ils ont moins d'argent puisqu'ils doivent servir leur dette. Donc, ils n'ont pas. Nous, ce qu'on craint à la CNUSED, c'est qu'on va avoir un domino effect de défaut de ces pays sur la dette. Et quand on a un pays qui fait défaut, comme on a vu en Argentine et d'autres pays, on perd 10 ans de développement. Parce que, comme vous le savez, maintenant, tous les pays ne font pas partie du Paris Club, du Club de Paris. Il y a beaucoup de dettes qui est privée, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont pris des dettes dans le secteur privé pendant que les taux d'intérêt étaient super bas. Alors, pour revenir à ta question, Paul, c'est un grand détour, mais les sommes sont énormes. Où on sait que sur le marché, on a l'argent. L'argent, elle est là. Le problème, c'est que l'argent, les investissements disponibles, des fonds de pension, par exemple, ou des compagnies de asset management, n'investissent pas dans les pays en développement, dans les ODD. Même là, ce qu'on a vu après la guerre en Ukraine, parce que l'énergie renouvelable, ça avait augmenté. Ça, c'était bon. Il y avait une augmentation des investissements privés. Et même ça, ça a diminué dans les pays en développement. Pour souvent, même pas parce qu'il y a plus de risques ou c'est juste par l'insécurité augmente, les incertitudes augmentent, le secteur privé rapatrie l'argent là où c'est plus sécur. Alors, je vais tourner la question vers toi, Paul. Comment est-ce qu'on travaille avec toi pour s'assurer que le secteur privé... parce que c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Marc, excuse. Pour s'assurer... Que les flux d'argent se rendent là où on en a besoin.
C'est une très bonne question. Mais là, je ne sais pas si on a le temps de la traiter. Non, mais j'avais, par rapport, je te réponds par une autre question, mais par rapport aux objectifs de développement durable, on aime bien, enfin, quand on parle d'objectifs dans le secteur plus privé, mais d'ailleurs en général, on parle souvent des objectifs SMART. Alors, je pense que tu connais ces objectifs, donc il faut qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes. Et avec une mesure dans le temps. Et c'est vrai que sur les ODD, ils sont spécifiques, ça c'est sûr, ils sont mesurables, 4,5 milliers de milliards de dollars. Et par contre, sur le fait qu'ils soient atteignables, réalistes et dans un temps resserré, sur le HART du SMART, c'est moins évident. Et donc la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a une façon de le faire, peut-être qui permettrait de rendre ces objectifs plus smart, en tout cas plus atteignable. C'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes à parler. Après, sur le secteur privé et sur le secteur public, ça, on a souvent la discussion avec Paul. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, on ne peut pas dire ça doit être le secteur privé qui doit le faire, parce que s'il le fait tout seul, on ne peut pas parler de main invisible qui va mettre 4,5 milliers de milliards de dollars tout seul. Et pareil, comme on dit, l'État... les États, au sens large, ne pourront pas, de manière coordonnée, mettre tout cet argent. Mais par contre, on peut essayer d'aller sur des systèmes qui sont coordonnés entre les différents États, les différents privés, avec une des parties de la finance d'impact qui est la plus efficace en termes d'impact, qui reste la blended finance, où les États vont aller par des mécanismes de garantie, par des mécanismes de prise de risque, de premier risque, essayer d'amplifier l'impact. Est-ce que c'est la solution unique? Je ne sais pas, mais c'est une des solutions. On a aussi les réglementations qui vont avec ouais. On en parle régulièrement avec Paul sur les avancées qu'on a en Europe et qu'on espère qu'ils pourront être déjà efficaces en Europe et mises en place dans le reste du monde, et puis l'entrepreneuriat avec des projets qui permettent d'augmenter l'impact. C'est un peu l'objet global de notre podcast.
C'est clair que l'aspect, Chantaline, de la réglementation, et puis ça, c'est peut-être terminé avec ce commentaire-là par rapport aux ODD. Aujourd'hui, toute la réglementation de la finance, parce qu'on parle de finance ici, qui touche l'économie réelle des entrepreneurs, la finance aujourd'hui durable qui doit être mainstream est poussée par la régulation en Europe qui est beaucoup plus avancée que ce qui se fait en Amérique du Nord et dans le reste du monde. Et aujourd'hui, je crois beaucoup aux bonnes intentions. Je n'y crois pas. Je crois à l'obligation réglementaire. Et cette obligation réglementaire vient du fait que nous, collectivement, comme écosystème, si on veut avoir une économie pérenne, si on détruit notre écosystème, on n'a plus d'économie, point barre. Donc, les assureurs sont à la base de ce risque qu'on ne peut pas prendre et donc met des régulations. Donc, les régulations, ma question, aujourd'hui, utilisent le langage commun des ODD de plus en plus, commencent à pousser ça. Donc, comment est-ce que tu vois, toi, dans ta position, comment est-ce que tu vois la régulation évoluer dans les pays en développement et aussi l'Amérique du Nord, quoi, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, où on a quelques années de retard. Puis, je vous rappelle qu'on est en 2023, 2030, c'est bientôt, hein? Donc, comment est-ce que tu vois la régulation, le rôle de la régulation là-dedans?
Donc, peut-être rapidement, donc pour le blended finance, le problème, c'est qu'on ne voit pas que ça amène vraiment le leverage. Tu n'as pas du 7, 8, 9 X que tu aurais besoin. Et tant qu'on n'arrivera pas à ça, est-ce que c'est vraiment la meilleure utilisation du public, de l'argent public pour attirer les investissements privés? Donc, ça, c'est une question là-dessus. Deuxièmement, les banques de développement sont sous-utilisées. Nous, on appelle à, dans la réforme du financement, une meilleure utilisation. En 2007-2008, durant la crise financière, on a refinancé les banques de développement. Là, on ne l'a pas fait. Elles sont plus, en fait, elles sont tellement préoccupées à garder le rating que leur réserve est tellement élevée, alors qu'on sait qu'on a une crise mondiale. Est-ce qu'il n'y a pas à regarder un peu le fonctionnement de ces banques de développement pour aider le public et le secteur privé? Parce que c'est trois, hein? C'est pas juste privé-public, c'est les banques de développement privé et public. Enfin, juste pour dire ça. Troisièmement, c'est que ces estimés qu'on dit, Marc, de 4,5 000 milliards de dollars, sont basés sur le « business as usual ». Et on sait qu'avec le système économique présentement que nous avons, on est capable probablement d'atteindre les objectifs 1 à 9 au dépens de 10 à 16. D'accord? En dépend de l'environnement et des inégalités. Et donc, l'idée est de savoir, sachant ça, est-ce qu'on est assez intelligent pour se dire, est-ce qu'on met en place, et là j'arrive à toi, ta question, Paul, des politiques qui favorisent l'économie bleue, l'économie verte, l'économie purple, l'économie orange, l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, qui aident à avancer ou à minimiser les trade-offs et augmenter les synergies entre le I, le S et le G, ou les trois dimensions du développement durable, l'environnement, le social et l'économie. Alors, moi, je pense que la question est de savoir, avant de dire, ah, voici combien ça coûte, et c'est là où j'ai le problème avec mesurer combien ça coûte, c'est de dire, comment est-ce qu'on incite nos entrepreneurs, puis souvent c'est fait par les entrepreneurs, les startups, on a commencé à parler ça au début, comment est-ce qu'on met en place les politiques pour faciliter leur travail? Ils ont tendance à utiliser des modèles d'affaires, les femmes aussi d'ailleurs, les jeunes, des modèles d'affaires qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement, le people planet, qui avance quand même l'économie, mais qui aussi prennent en compte l'environnement et le social. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on a les politiques en place qui favorisent ces entrepreneurs-là et les petites moyennes entreprises qu'on sait créent 70 % des jobs dans le monde et qui créent 50 % des profits dans le monde? Et pourtant, on met en place des politiques qui supportent les multinationales. Rien contre les multinationales, mais qu'est-ce qu'on met en place pour le verdir, le bleuer, le whatever de nos petites moyennes
entreprises? Et oui, c'est particulier parce qu'effectivement, on en parlait dans un podcast récemment, où effectivement, aujourd'hui, la plupart des startups, beaucoup de startups ont un modèle d'affaires qui, en plus de mitiger leur impact négatif, génère par leur modèle d'affaires des impacts positifs. Et pourtant, oui, ils vont sur le marché pour se faire financer sur un modèle d'il y a 250 ans. C'est-à-dire un modèle exclusivement, exact, sur le rendement financier, peu importe le rendement d'impact ou pas. Et ça, c'est un énorme défi parce que le rendement d'impact, ça prend du moyen et du long terme et il faut investir longtemps avant d'arriver à cette rentabilité dans beaucoup de cas. Donc ça, c'est un énorme défi où on nous demande et on demande à des entreprises d'impact d'avoir un rendement aussi important en termes de finances qui ne respectent pas l'environnement et le social, tout en ayant un rendement d'impact. Donc, c'est assez complexe. Et ça, c'est effectivement un des aspects où je pense que la régulation peut pousser à faire le changement de paradigme de la finance aujourd'hui, qui ne s'occupe que des aspects financiers, qui doit s'occuper aussi des aspects extra-financiers impact. On va terminer.
Et juste pour conclure.
Vas-y.
Parce qu'on vient d'avoir une résolution à l'ONU que je suis très fière qu'on a supportée sur l'économie sociale et solidaire, amenée par l'Espagne, le Chili et le Sénégal, sur l'économie sociale et solidaire. Donc, de reconnaître, l'Assemblée générale a reconnu le pouvoir de l'économie sociale et solidaire pour avancer les trois dimensions du développement durable. Et dans la résolution, ce qu'on demande, c'est de regarder le financement qui serait nécessaire. Comment est-ce qu'on revoit nos modèles de financement pour être en mesure de supporter l'économie sociale et solidaire? Et ça va être un premier pas dans la bonne direction pour commencer à avoir ces discussions.
Bon. Bien, Chantaline, on va terminer. C'était fascinant. On aurait pu en parler longtemps, mais c'est fascinant de parler à une personne qui était à la base des objectifs de développement durable, qui est notre travail chez Impact de tous les jours. On va te demander une dernière question qui est une question assez intéressante qui nous fait sourire, Marc et moi, à chaque fois qu'on la pose. La question piège, c'est si tu avais une baguette magique, la chose que tu ferais pour qu'on puisse changer nos économies, changer et nous remettre sur la bonne trajectoire, que ferais-tu?
Enlighten, donc rendre conscient et les gens de comment leurs investissements sont investis. Si chacun de nous prenait en compte comment nos fonds de pension, comment les gens qui investissent notre monnaie, parce que c'est notre argent. La majorité de l'argent dans le marché, c'est l'argent des citoyens et des travailleurs. Et si on était capable de faire prendre compte à ces gens-là des impacts, comme tu disais, positifs et négatifs de leurs investissements et leur donner la capacité de choisir comment ils veulent que leur argent soit investi, je pense qu'on pourrait changer le monde.
Chantaline, tu me fais tellement plaisir. C'est la mission d'Impact Analytics de donner de la transparence sur les impacts négatifs et positifs générés par chaque organisation.
Et c'est pour conclure, c'est aussi la façon, c'est aussi notre conviction à la banque et c'est la façon dont on construit nos portefeuilles. Donc, en effet, on est totalement en ligne là-dessus.
Ah ben super. Oui. Je ne vous ai pas surpris alors. Il faudrait que je trouve d'autres choses.
Non, si, c'est la première fois qu'on a cette réponse-là.
Ah oui?
Non, c'est génial. Sachant que tu avais donné déjà dans le podcast beaucoup d'idées. Merci, c'était vraiment absolument passionnant.
Ah, merci cool. Beaucoup, puis continue à nous inspirer, continue ton travail, c'est très, très génial.
Je vais juste vous dire, Paul et Marc, je vais être plus près de toi, j'ai eu une promotion, je déménage à Genève le 1er mai, et je vais être en charge, en fait, et c'est là où je prends mon prochain challenge, Paul. Je suis en charge du commerce, environnement, changement climatique et développement durable. Et c'est là qu'on va reviser nos politiques.
On va se reparler, c'est clair. Félicitations.
Félicitations.
Alors, si vous passez par Genève, venez me voir.
Avec plaisir. Bye.
Bye.
Puis Marc, quand même fascinant que cet entretien avec Chantaline. Hein? Qu'est-ce que tu as retenu, toi?
La première chose que j'ai retenue qui est assez intéressante, c'est qu'elle est... Ça reste une scientifique, quelqu'un qui fait de la recherche économique, des modèles mathématiques, et qui pour autant essaie de les appliquer de manière très concrète sur des problématiques. Donc c'est ce qu'elle a fait notamment en Amérique latine, où elle a essayé de trouver des modèles qui puissent fonctionner, où on puisse exploiter, avoir de la rentabilité, mais en même temps sur le temps long des résultats durables. Donc ça c'est le premier point qui est vraiment intéressant, et le deuxième point qui est le cœur du sujet de notre échange avec elle, c'est j'ai été vraiment passionné de de voir comment elle a réussi, avec toute son équipe évidemment, à mettre d'accord près de 200 pays pour définir le langage commun que sont les ODD. Et certes, il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'ils soient atteints, ces ODD, mais déjà de se dire que c'est devenu un langage commun et la façon dont on est capable de mesurer les impacts positifs et les impacts négatifs à mitiger des entreprises, c'est un réel succès.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Enquête d'impact.
J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. N'hésitez pas à le partager sur l'ensemble des réseaux sociaux et à nous laisser des commentaires ou des idées pour de futurs invités.
À bientôt.
À très bientôt.